Depuis 2022, les ateliers et les conférences de Vinapogée sont enregistrés pour que vous, amateurs de vin, puissiez écouter et réécouter afin de vous divertir et apprendre au fil du temps histoire, expérience, gourmandise, savoir. Dans le cadre de Vinapogée 2023, nous vous présentons un atelier intitulé Porto 2003, animé par David Guimarães, maître de chez des marques Taylor's, Fonseca et Croft, et Luis Esgoñar Carnero, ambassadeur de ces trois marques. L'année 2003 a été principalement caractérisée par des températures élevées durant la période estivale, provoquant un phénomène de canicule. L'excellente maturité obtenue, qui rendait difficile la vinification des vins secs compte tenu du faible niveau d'acidité, a donné d'excellents résultats pour l'élaboration de vins fortifiés. David Guimarães et Luis Carnero partagent leur expérience de ce millésime classique et exceptionnel et présentent les Porto Taylor's Vintage 2003, Fonseca Vintage 2003 et Croft Vintage 2003 en format Magnum.
Bonjour à tous, je commence pour excuser mon français.
Mais un détail.
S'il y avait quelque chose que vous ne comprenez.
On a fait l'école française de Porto tous les deux. C'est là où on s'est rencontrés à 6 ans d'âge. Mais bon, je viens plus souvent en France, donc le mien un peu moins rouillé que le tien. Mais c'est, l'anglais, est-ce que c'est, ça vous gêne l'anglais? Je sais que David, pour toi, c'est pas compliqué l'anglais. Mais sinon, il y aura certainement des expressions qui sortiront en anglais. Voilà, allez.
Merci, Louis. Mais je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'école française. Et quand j'ai sorti rapidement et j'allais pour l'école anglaise à Porto.
Ça, on ne veut pas savoir, ça.
Mais mon père n'est pas très content et il me met pour faire le premier vendage quand j'avais 8 ans dans le Douro pour 2 semaines. Et le directeur de l'école anglaise a dit à mon père, « Vous ne pouvez pas faire votre fille sortir 2 semaines de l'école. » Mon père a dit, « Shut up !» Il apprend plus 2 semaines dans la vendage qu'en année dans votre école. OK, bon, je suis ici. j'avais la bonne chance d'être d'une famille de Porto à quelques générations. Et le Porto est naturellement un des grands vins de vieillissement. Et aujourd'hui, qu'on fait la célébration de le vin, le âge, la capacité de vieillir, ça c'est le Porto pour le caractère. Le Porto comme un vin fortifié qu'il est, et les origines de la fortification, c'est pour une question de stabilisation pendant le transport, mais ça a donné leur capacité de vieillir. Et dans notre monde de vin de Porto, nous avons 2 grands styles de Porto, qui sont les Porto qui vieillissent dans le bois, un vieillissement oxydatif, qui sont les tannins, les colheitas, et c'est le Porto qui nous vieillit jusqu'au moment qui nous croit qu'ils sont dans le moment pour le bois. Et l'autre monde du Porto, c'est le vintage. Et le vintage, c'est la sélection des grands vins, seulement des grandes années, qui sont mis en bouteille 2 ans après la vendage et le vieillissement on fait dans la bouteille. Et aujourd'hui, nous allons déguster exactement un petit peu de ce monde de vintage. Et beaucoup de personnes me pose la question, qui sont les grands Porto? Ce sont les vieilles tannins ou ce sont le vintage? Et c'est une question très difficile de poser parce que ce sont les deux, les grands Porto, mais on avait 2 réalités très différentes. Pour vieille un tannin, qu'on met aujourd'hui à déguster 50 ans, le very, very old avec 80 ans tanné. C'est vrai que ces portos sont incroyables, la concentration et ce vieillissement dans le bois dans quelques années. Et ça, c'est la grande patience. Et vraiment, pour pour notre maison, mettre en bouteille ce vieil tawny avec cette hache, ce sont vraiment extraordinaires. Mais dans le monde de vintage, qui c'est qu'on va déguster aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le difficile? Ça, c'est le savoir-faire de produire cette Porto. Pourquoi? Parce que comme on choisit un vin pour mettre en bouteille 2 ans après la vendange, et comme le vieillissement se fait dans la bouteille, nous avons une opportunité pour faire bien notre travail. Et aujourd'hui, notre maison Fonseca avait le renom qu'il avait, c'est pour que pendant diverses générations, normalement, on choisit bien. Je dis normalement parce que dans notre histoire, peut-être il avait une année, mais ce qui c'est important est année après année faire bien cette décision. Et le vintage, c'est une Porto qui a très différentes caractéristiques pendant quel âge qu'on va le boire. C'est vrai qu'en jeune vintage, c'est une Porto très fruitée, très puissante, très tannique. Peut-être c'est difficile de faire la comparaison avec une 50 ans tawny qui a déjà 50 ans. Mais quand on fait une comparaison, quand une grande vintage avec 50 années et une tawny qui a 50 années, ça c'est très difficile de dire que c'est le meilleur. Mais je sais que pour avoir le savoir-faire, pour faire une vintage qu'après 50 ans, c'est extraordinaire, ça c'est le plus difficile. Et bon, aujourd'hui on concentre sur le vintage. C'est important aussi, quand on parle de vin de Porto, on parlait de notre région du Valais du Douro. La Valais du Douro, c'est une région de viticulture de montagne, dans un climat chaud, très chaud. Et ici, la région du Douro et le vin de Porto a beaucoup de similarités avec la Champagne. C'est vrai, monsieur Philippe Moulin, Charles. Et pourquoi?
C'est pas un climat chaud.
C'est l'autre extrême. C'est Champagne, c'est les extrêmes. C'est moins chaud. Et pourquoi cette comparaison? Parce que si en Champagne, ici c'est très dangereux de parler avec une experte de Champagne ici, et tout vous, mais si la Champagne, c'est une région qui produit raisin avec beaucoup d'acidité et pas beaucoup de sucre, c'est dans ce magnifique style de vin, le Champagne, qu'on produit le vin parfait pour cette région. Et c'est dans le Champagne, le art de l'assemblage, qui ont produit ces grands vins qui ont cette caractéristique. Dans le Douro, c'est l'autre extrême, c'est la chaleur. Et notre raisin produit, on avait raisin avec beaucoup de sucre et pas beaucoup d'acidité. Et c'est dans le vin de Porto, cet vin fortifié, où cette raisin avec trop de sucre, ce n'est pas un problème, parce que le Porto, comme on fait le mutage avec le eau de vie, le sucre, c'est la composition naturelle du Porto. Et c'est le eau de vie qui donne l'équilibre de la manque de l'acidité. Et aussi, c'est le travail, l'assemblage, particulièrement avec le tawny. On fait les assemblages qui on va croiser différentes années pour faire des portos parfaits. Et c'est avec le vintage, qui sont les meilleurs vins des meilleures années, qui ont mis en bouteille pour exprimer le caractère de cette année. Et c'est comme en Champagne, les grandes années de Champagne, les millésimes qui ont fait les grandes expressions des bonnes années. Et pour ça, notre région avec notre condition, nous produisions raisins qui avaient beaucoup de concentration de couleurs et de tanins. C'est les conditions qu'ont besoin pour faire un Porto qui va vieillir dans la bouteille pour un vintage. Nous sommes aussi, et nous continuons à être très fidèles à la mélange des cépages. Notre vignoble traditionnel dans le Douro, les vieilles vignes, sont traditionnellement la mélange des cépages en chaque vigne, chaque parcelle. Aujourd'hui, où on avait une tendance pour séparer les cépages dans la vignoble, mais dans la fermentation, j'utilise la mélange de différents cépages parce que dans notre condition extrême, nous veut cépages qui donnent couleur de tanin, mais aussi des cépages qui donnent acidité et de taste, de goût. Et c'est cette combinaison qui marche très bien pour le Porto et on continue comme ça. C'est pour ça que quand on parle d'un vin de Porto, on ne parle pas d'un vin de cépage. Mais dans Europe, c'est plus facile de comprendre ça. Après la vinification pour le vintage, on continue à utiliser le méthode traditionnel du pigeage à pied dans des cuves de granit, de lagar. C'est un système très traditionnel, mais il marche très bien. Et quand une chose marche bien, pourquoi changer si on a besoin de changer? Et ce qui est intéressant pour les trois Porto ici, sont tous faits en lagar traditionnel avec pigeage à pied.
À savoir que la durée de fermentation du Porto est de 72 heures, 3 jours. Et pour pouvoir optimiser le travail extractif, c'est ce que Dave est en train de dire, pour obtenir les couleurs, les arômes, les polyphénols, les anthocyanes, la meilleure technique encore aujourd'hui uniquement faite dans les vintages, c'est la méthode traditionnelle de la vinification manuelle.
Oui, oui c'est vrai parce que le pigeage à pied fait une extraction très grande avant la fermentation commencée.
Exactement.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le dernier, j'ai retourné chez nous à 32 ans, et dans les années 90, j'ai développé des cuves en inox avec pigeage mécanique. Et aujourd'hui, la plus grande quantité qu'on fait de Porto, c'est fait en cuve mécanique. Mais pour le vintage, on continue à utiliser la méthode, les lagars de granit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on change la méthode de vinification pour une méthode moderne, on ne dit que le vin c'est meilleur ou pire. Mais il est différent. Et ce qui est intéressant pour moi, que dans mon premier 10-15 années, j'ai développé ce système alternatif. Je produis très bons vins, mais ils sont différents. Et dans le vintage, c'est très important. La rafle, c'est très important dans le caractère. Et pour moi, je continue de le mettre le lagar traditionnel, faire la vinification pour le vintage.
Tu mets de la rafle, tu laisses un peu de rafle.
Je laisse 5% de la rafle.
5 ?
5, 100%.
100%.
100% de la rafle.
Il n'y a pas d'égrappage, tout va dans le lagar.
Il n'y a pas d'égrappage. Et ça, c'est pour que... c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le nouvel équipement, on peut faire vin plus fruité, plus élégant quand il est jeune, mais on fait une vintage pour avoir la capacité de vieillir pendant 40, 60 ans et plus. Et pour ça, on maintient cette méthode traditionnelle et aujourd'hui, on continue avec le pigeage à pied. Seulement 2020 et 2021, avec le Covid, on a arrêté.
Vous n'avez pas pu faire.
Oui. Et l'année dernière, nous avons retourné à Pigeage. Bon, on est ici pour déguster l'année de 2003. Et 2003, c'est une année très intéressante parce que je pense qu'ici en France, vous appelez le 2004 l'année de la canicule. C'est une année très, très
2003,
chaude.
2003, t'as dit 4, mais 3.
2003.
Oui, 2003.
C'est l'année du canicule. Et c'est vrai, c'est une année très chaude. Mais dans la région de Porto, nous sommes habitués à vivre cette année assez chaude. Et pour nous, ce n'est pas toujours un problème. Et l'exemple de ça, cette grande année de 2003. Mais qu'est-ce qui a passé en 2003? Le hiver avant, c'est avec beaucoup de pluie. Et même le printemps, nous avions une bonne quantité de l'eau. Et c'est seulement en août que la chaleur est arrivée. Et dans le premier 15 jours d'août, nous avions seulement un jour que la température n'est pas descendue de 40 degrés dans le jour.
Donc, la minimum.
Le minimum, non, ce n'est pas le minimum.
Le maximum.
Non, tous les 15 jours d'août, tous les jours, c'est plus de 40 degrés.
Maximum.
Plus de 40 degrés. Et la température minimum, c'est 33 degrés.
Pendant 15
c'est
jours.
Très, très chaud. Mais c'est aussi une année avec beaucoup de raisins. Et quand nous sommes arrivés à la vendange, 50% de raisins, c'est...
Abîmé, n'était pas asséché.
Oui, il a séché. Et c'est là que la vendange manuelle, c'est très important, parce qu'on choisit les raisins qui arrivent au lagar. Et ça, c'est très important. Et les 2003, on a fait des Porto qui avaient, dans ces années très chaleur, qu'il a beaucoup de concentration, où la concentration vient de la
impassage.
C'est la concentration avec la chaleur. Et cette année, c'est ça. Et dans cette année, le tanin c'est plus présent. Et le tanin de 2003, quand nous le mis en bouteille, c'est énorme. Et on discutait dans la salle de dégustation, sera que cet tanin, il va baisser. Et aujourd'hui, on goûtait ça. Il avait aussi un autre style de vintage, qui c'est les années où la concentration ne vient de la chaleur, il vient de la photosynthèse. Et ça, c'est par exemple l'année de 2000. Cette année, ce sont des années où il pluie beaucoup aussi, mais les conditions de végétation, ce n'est pas avec beaucoup de chaleur. Et ainsi, cette année, les tanins sont très fines, mais la structure qui ont besoin pour cette vin vient de la photosynthèse, c'est beaucoup de volume de fruits. Et je fais la comparaison de 2000, c'est une année plus fraîche, 2003, c'est une année de chaleur. Plus récemment, on fait la comparaison de 2016 et 2017. 2017, c'est aussi une année très chaude, avec les concentrations, c'est un tanin très fort, c'est une année de Porto énorme. 2016, c'est une vintage aussi classique, mais très élégant. Bon, on va commencer la dégustation. Et avant de déguster ces trois Porto, qu'est-ce qu'on avait ici? Bon, toujours, c'est la même année, 2003, mais ce sont trois maisons différentes. La méthode de vinification, c'est le même pour le toit, c'est le lagar, c'est personne différent, mais c'est pigeage à pied. Mais une autre chose qui c'est le même, c'est le eau de vie. Le vin de Porto est un vin fortifié et 20% de chaque bouteille, c'est une eau de vie de vin et c'est une eau de vie neutre. aujourd'hui, les eaux de vie que j'utilise avaient une qualité magnifique, mais je veux qu'il soit très propre, très neutre. Et pour ça, même que chaque maison avait un vignoble différent, de chez différent, pour moi, le lot d'eau de vie, c'est le même. Parce que je ne veux que c'est l'eau de vie qui fait la différence de chaque maison.
Ouais. Une question, David. C'est nécessairement d'origine vinique, l'eau de vie?
Oui. Toujours, c'est eau de vie de vin à 77 degrés. Toujours. Et qu'est-ce qu'on avait dans le Valais du Douro? La Valais du Douro, c'est comme une région de viticulture de montagne. Le grand nombre de terroirs marche très bien dans notre région parce que c'est la localisation des différents vignobles de chaque maison qui va donner les différents caractères de chaque maison. Et ça, c'est que c'est intéressant de déguster aujourd'hui. C'est la même année, la même région, mais la localisation de chaque vignoble a donné Porto très différent d'une maison pour autre. Et pour ça, nous allons commencer avec le Croft 2003.
Celui de gauche.
C'est à gauche, oui.
Gauche. Oui.
On commence à gauche avec...
Comme exposé sur les bouteilles, de gauche à droite. Oui.
Croft, c'est une maison, c'est le plus ancien de notre trois maisons, qu'il a commencé le siècle XVI. Et le vignoble de Croft, c'est Quinta de Rueda, qui c'est à Pignon, dans le centre de Douro. Mais c'est une vignoble qui avait une exposition à beaucoup de chaleur. Et aussi, à la propriété Rueda, et cette Porto avait 80% de vignobles qui nous appelons la première génération après le phylloxéra. Le Douro, comme les autres régions de l'Europe, avec le phylloxéra, c'est catastrophe dans le moyen du siècle 19. Et dans le Douro, tous les vignobles sont replantés dans le dernier... décade du siècle 19 et les trois premières décades du siècle 20. Et à Rueda, nous avons beaucoup de cette vieille vigne. Et le plus vieil s'est planté, c'est la vigne de Fradura, dans la dernière décade du siècle 19. Et cette vignoble, ce n'est pas seulement cet âge incroyable qu'il avait, mais aussi... il avait une mélange très intéressant de cépages. La caractère de Rueda et de Croft, c'est un arôme plus exotique. Et quand on comprend ça, quand on fait la comparaison avec les autres maisons, il a des fruits tropicales et très exotiques.
David, une question. Donc, tu veux dire que le Croft 2003 a été produit essentiellement de raisins de la Quinta de Rueda, oui, et une grande partie de vieilles vignes.
Une grande partie de ça.
De vieilles vignes. Et dans ces vieilles vignes, donc, c'était des raisins en foule. Il y avait un énorme mélange de différents cépages. Il y a quoi, plus d'une trentaine de cépages que tu peux retrouver dans des vieilles vignes?
Normalement, dans le vieille vigne de Douro, il y a 4-5 cépages qui sont le plus grand pourcentage.
D'accord.
Ce qui change de différentes propriétés, ce sont les cépages secondaires. Et normalement, dans le Douro, de Touriga française, de Tinta Roriche, Tinta Baroque, Tinta Merle sont le principal. À Rueda, par exemple, c'est le Tinta Francisca, représente 10%. Dans les autres maisons, il n'existe pratiquement, oui, rien.
Mais juste une curiosité, peut-être ça va vous amuser. Je me souviens que tu avais dit que dans les vieilles vignes de Rueda, surtout la vieille vigne Benedita, vous avez retrouvé de l'alicante bouché.
Ah oui, c'est vrai.
De l'alicante bouché. pour la couleur, mais
2% du vignoble de cépage à Rouer, c'est Alicante Boucher.
C'est Alicante Boucher. Mais... Qui... De temps en temps, on le voit, il commence à surgir. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vrai. De la Quinta,
pour
le
moi,
Quinta de Rueda de Croft, de la maison Croft, oui, le Croft.
Exactement.
Oui, non. Ouais,
pour moi, ce qui est intéressant de cette vintage, c'est la maison Croft, c'est très ancienne, mais pendant 30 ans, la maison est une multinationale.
Oui. Udivi Diageo était propriétaire. UDV.
C'est les propriétés. Et la multinationale qui était dans le secteur du Porto entre les années 70 à 80, il ne s'intéresse pour le vintage. Et Croft, quand on voit les vieilles Croft, les années 65 ans, sont incroyables.
Le 45.
Le 45, c'est le grand de 45. Mais Croft a perdu... La maison a perdu son chemin avec le vintage après les années 70-80 parce que les multinationales ne l'intéressent le vintage et a fini avec le pigeage à pied. Notre famille, nous avons acheté Croft en 2001.
Alors, et savoir que la Quinta de Rueda, dans le passé, a eu la famille de Taylor, la famille Yetman et la famille Flatgate avaient la Quinta de Rueda et qui est partie après à la famille Croft par mariage. Et ça a été amusant quand la famille Taylor a acheté la maison Croft et le vignoble de Rueda en 2001, c'est de récupérer une Quinta qui a 200 ans avait appartenu à la famille. Oui.
C'est dans l'époque...
Keep it in the family.
C'est dans l'époque de Phylloxera. et pour moi, quand nous avons acheté Croft, j'ai reconstruit les lagars traditionnels et retourné le raisin de cette magnifique vignoble pour être vinifié comme moi, je savais faire le vintage pour Fonseca était là. Et c'est pour moi que cette Croft 2003, c'est une grande vintage pour moi. Pas seulement parce qu'il avait une grande qualité, mais plus important, il est complètement différent en caractère du Fonseca et du Tella. Et pour ça, on passe pour le second vintage, qui c'est le Fonseca. Et Fonseca, c'est une maison qui avait grande tradition avec le vintage. Notre premier vintage, c'est en 1840, et la maison de Fonseca s'est connue pour faire des grands vintages. Plus récemment, le 1927, le 63, le 77,
48.
Le 48 sont références de vintage. 94.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est le caractère du Fonseca? C'est le fruit, le structure.
Ah ben il est.
C'est très grand.
Incroyable.
Je dis que dans ce moment, il est un petit plus fermé.
Mais goûte maintenant, David, ça n'a rien à voir.
Oui, oui.
Le fruit ressort là et c'est.
Oui.
Parce que quand on l'a dégusté ce matin, des trois vins, c'était celui qui était le plus fermé. Et on était même un peu gêné de tellement fermé il est là. Mais là, l'épanouissement du fruit, ce fruit primaire, ce fruit rouge très, très frais et très, très présent. Il commence à être chaque fois plus présent.
Ouais. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Le tanin, qui je parle de l'année 2003, il continue avec beaucoup de tanin. Mais quand est-ce qu'on boit en vintage? Pour moi, cette vintage, c'est très jeune. Il avait seulement, il arrive à les 20 ans. Mais dans le vintage, il y a différents étages dans leur vie. Quand un vintage avait entre 2 et 10 ans, c'est une Porto très fruité. C'est la puissance de fruits, il est jeune. C'est une rubis parfait. beaucoup de tanins très jeunes. Après, entre le 10 ans et le 20 ans d'âge, je dis que le vintage, c'est un petit peu une teenager. Il ne savait s'il est jeune et fruité, et il ne savait s'il avait déjà des complexités. Et comme ça, je dis qu'un vintage dans les années teenager, il y a des jours qu'il se montre meilleur, et il y a des autres jours qui ne sait pas.
On a tous agréable. Passé par ça.
Hein tous passés, à beaucoup de temps. Beaucoup. Après, quand le vintage arrive exactement à ce moment, le 20 ans d'âge, et entre les 20 ans et le 40 ans, c'est quand les caractères de bottle-age, c'est la complexité de la bouteille, commence à donner la personnalité au vin. Et ici, on a perdu le fruit jeune. On a déjà cette marzipan, les arômes de vieillissement de bouteille, c'est très caractéristique, le vintage.
Frangipan. Frangipan, merci David.
On commence à gagner un petit peu d'épices. Mais le fruit, c'est très distinct. Et ici, quand on fait la comparaison du Croft au Fonseca et après le Tela, on comprend très facilement les différentes personnalités de chaque maison. Ça qui est intéressant dans les grands vins. Ce n'est pas seulement que c'est un bon vin, mais c'est un bon vin et qu'il représente la personnalité de chaque maison. Et entre les 20 ans et les 40 ans, c'est une période magique pour le vintage. Jusqu'à, on arrive aux 40 ans. Et quand on arrive à 40 ans, c'est ici que je dis qu'on sépare the men from the boys. C'est qu'on sépare les hommes des
enfants.
Des enfants. Seulement, les grandes vintages avaient la capacité de vieillir plus de 40 ans. Et entre les 40 ans et les 60 ans, un vintage, pour moi, c'est le grand moment. Si on avait la patience pour le garder ce temps, entre les 40 ans et les 60 ans, il exprime le maximum de complexité, mais il garde fraîcheur.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stand qu'on a au salon est à côté d'un panneau qui dit « Patience ». On est juste à côté de ce panneau-là. Et donc...
Après les 60 ans, c'est un petit peu comme nous, les hommes, est-ce qu'on avait la même structure, on ne dit pas la même quantité, mais ce qu'ils ont dit, c'est très intéressant. Et le très vieil vintage, avec plus de 60 ans, est une complexité incroyable.
La sagesse.
Et c'est pour ça que en vintage, ça dépend de l'âge qui nous ouvrit la bouteille pour comprendre la complexité qu'il va avoir. La différence de sucre, ce n'est pas très différent parce que normalement, je fais le même objectif de sucre. Et l'alcool, c'est toujours le même, 20,5 d'alcool.
Ils sont un peu plus hauts, 21,
oui. Et voilà. Normalement, vintage, 20,5. Oui. 20,5. Et les sucres résiduels tournent dans les 100. 90, entre 90 et 100.
90 de sucre résiduel.
Il y a une différence avec les vins français qui sont un peu plus bas en alcool.
Tout à fait.
Oui.
Mais ils utilisent.
Ils sont à 19.
Mais attention.
Mais avec une autre eau de vie, complètement différente. C'est une eau de vie alcool et pure. Elle est à 96 degrés.
Mais il a mutage sur grain
et pas. Et voilà, tout à fait. Nous, on ne fait pas de mutage sur grain.
Et attention que le eau de vie, c'est très important pour équilibrer le sucre. Et si on va baisser l'alcool pour le mode, pour le taxe, c'est dangereux parce qu'on perd un petit peu l'équilibre.
Oui, parce que les accises à moins de 16 degrés et trois fois moins qu'un vin muté français à 16 degrés paye trois fois moins d'impôts qu'un vin à 20 degrés qui paye presque 2 euros par bouteille. Merci. Oui, oui, c'est... oui, monsieur.
Une question sur notre vie. C'est notre vie 100% portugaise, de vieux vin, du Douro. Qu'est-ce que c'est notre vie? Et aussi, vous avez expliqué les vintages 10, 20, 20, 40, 40, 60, plus 60. Mais pas, ça ne se boit pas tout seul. Donc, ça, on mange quoi avec? Ça, c'est différent.
D'abord, ça se boit à plusieurs.
Oui.
On partage.
Nous, on est très égoïstes. On les boit nous-mêmes.
Bon, la première question, c'est l'eau de vie. Comme l'eau de vie, je trouve une eau de vie propre qui n'avait pas grand caractère. L'eau de vie que j'utilise vient de différents pays d'Europe.
Trois pays.
J'utilise, c'est différents pays d'Europe. Ouais. Pour moi, c'est plus important la qualité de l'eau de vie que l'origine, parce que on ne trouve, on ne veut que l'eau de vie donne caractère. L'autre question qui c'est, qu'est-ce que c'est la meilleure combinaison d'un vintage? Le vintage, c'est quand on boit au fin du repas. Un jeune vintage, quand il avait beaucoup de fruits, beaucoup de tanins, ça parfait avec une chocolat, un dessert fort, ou un fromage très fort, où les intensités de tanins de fruits avaient la capacité d'accompagner cette dessert très fort. Après, une vintage avec 20-40 ans, on peut le boire avec le fromage. Ça, c'est une bonne combination.
Un peu plus sec, fromages un peu plus oxydés.
Oui. Et le plus vieil, le vintage, normalement, on le boit quand on finit tout le repas et tout seul. Le plus important, c'est choisir une bonne compagnie pour découvrir cette vin. Oui. Et le Porto, c'est une très bonne forme de, je dis, lubrifier la conversation au fin du repas.
et si un vous très avez... joli terme.
Les Anglais ont besoin de lubrifier. On lubrifie beaucoup.
Hein. Et si vous avez un repas avec des amis qui aiment des vins, ouvrez une bouteille de vintage pour découvrir l'année, la maison, et ça. Et c'est une très bonne méthode.
Pour parler un peu d'anglais, les origines de David, c'est un nom portugais, le fondateur de la maison est portugais, mais au milieu du 19e siècle, en 1834 exactement, il y a eu une guerre civile au Portugal entre deux frères princes, un libéral, l'autre conservateur, qui se sont disputés le trône. Et le cinquième aïeul de David a fait partisan de je ne sais plus lequel, celui qui a dû s'enfuir. Et la légende dit que son aïeul s'est mis dans une barrique et est parti en Angleterre. Et ils sont
rentrés.
Et ils sont rentrés au Portugal quand il y a eu la Révolution en 1910, hein, après, oui. Quand il y a eu la Première République au Portugal en 1910. Et donc, ils sont siégés, et ils ont travaillé, ils ont fait le négoce à partir de Londres. Et là, et donc, ils se sont un peu britannisés. Dans cette île de l'autre côté, là-bas.
Un petit peu de français.
Voilà, un petit peu de français. Voilà le côté british.
Le dernier vintage, c'est le troisième vintage, c'est le Taylor's. Et ce qui est intéressant, comparé à la Taylor's, c'est le Taylor's comme maison, le principal propriétaire qui s'est quitté de Vargelas, c'est dans le haut Douro.
Ce qu'on appelle le Douro supérieur, la partie la plus à l'est de la vallée qui est proche de l'Espagne, du plateau de la Castille.
C'est la région qui est plus aride, mais les vignobles de Vargelas avaient une orientation à nord. Où l'orientation des vignobles de Croft est à sud, les vignobles de Vargelas avaient une orientation à nord. Et ils sont plus protégés de la chaleur directe. Mais ça donne un caractère plus sèche. Où le Fonseca, cette fruité, la propriété de Fonseca...
C'est quel Quinta Fonseca?
Fonseca, c'est Panascal Cruzeiro, dans le Valais du Pignon, et Távora. Et le Fonseca, c'est le fruit.
C'est au village de Pignon, c'est vraiment dans le cœur de la région. Oui. Pendant que Vargelas est à 30 km vers l'est, vers l'Espagne.
Et le Fonseca, c'est le caractère de la maison, c'est le fruit. Le fruit, le caractère de Taylor, il n'avait pas la même puissance de fruit. Il avait une fruit qui s'est plus de floral, c'est plus fermé. Et les tanins, c'est très long. Et ça, c'est intéressant, comme les différentes maisons avaient cette personnalité très différente. Le Fonseca, c'est flamboyant, fruité. Le Fonseca, c'est...
Le Taylor,
c'est plus droit, précise.
Plus précis. Pour vous donner une idée de la vaste région du Douro, qui est divisée en trois sous-régions en termes de pluviosité, et même si on commence à Porto, qui est la bouche du fleuve du Douro, la moyenne de pluviosité de octobre à mai est de 1200 mm d'eau. Et vous remontez et vous êtes dans la partie la plus ouest de la région, ce qu'on appelle le Baixo Corgo, à ouest de la région du Douro. On est à Porto, on monte vers l'est et on rentre dans la région. Et dans la région à ouest, la moyenne est de 900 mm. On monte le fleuve 50 km, la moyenne est de 600 mm d'eau. Et quand on va dans le Douro supérieur, dont est Vargelas, la moyenne de pluviosité est de 350 mm d'eau. Donc vous voyez, l'écart de pluviosité est énorme, est trois fois moins. Oui, il y a la frontière, ça, c'est du sec, sec, sec.
Pour moi, c'est intéressant de vous poser des questions sur la goutte des différentes maisons, mais pour moi, le Croft et le Taylor sont, dans ce monde, c'est plus pronto.
Ils sont plus prêts à boire, ils sont plus avancés.
Le Fonseca, c'est plus fermé, il a besoin plus de temps.
Avec les mêmes eaux de vie, avec les mêmes vinifications.
Oui.
Exact.
Et c'est là que peut-être, effectivement, la géographie, la géologie...
Et c'est ça qui définit les styles de maison.
C'est raffiné.
Oui, tout à fait.
Raffiné, plus salin, plus floral.
Oui, salin, c'est...
Vous parliez de comparaison avec la Champagne. Est-ce que chaque quinta... à ses propres vignes, ou est-ce que vous achetez aussi des vignes à côté?
Pour notre vintage...
Chaque maison, vous voulez dire chaque maison?
Oui. Oui. Pour le vintage, chaque maison utilise seulement leur propre vignoble.
Pour le vintage?
Pour le vintage.
Mais on peut prendre du raisin d'ailleurs, si on veut.
Oui, si on veut.
Si on veut. Si tu aimes le raisin, tu le prends.
Anciennement, notre maison achète pas de raisin, de porto produit pour produit local pour le faire. Pour oui. le faire.
Mais aujourd'hui, non.
Dans les derniers 30 ans, tout le vintage vient de notre vignoble.
Dans le monde du vin, on a toujours la notion de quand on prend la parcelle ou le vin uniquement du domaine et on ne mélange pas, normalement, ça fait le grand vin. Pour le porto, c'est justement le contraire. C'est le travail d'assemblage qui reste le plus important, c'est de prendre le raisin de plusieurs endroits et de construire cette intervention humaine qui construit le vin.
C'est très important.
Et Porto.
Bordeaux, et la Champagne, c'est l'assemblage qui fait la grandeur.
Tout à fait.
La Bourgogne, c'est la parcelle.
Tout à fait.
Micro-parcelle. Et si vous avez 800 mètres carrés dans une parcelle et que vous faites 200 bouteilles,
tout à fait.
Mais je peux expliquer une chose.
On a fait les vieilles vignes pour oui. augmenter les prix. C'est
très important d'expliquer ça. Le Porto vintage, comme nous mis en bouteille en vin, et on avait l'expectative qu'il va vieillir plus de 60 ans dans la bouteille, c'est seulement les grandes années qui avaient cette capacité de vieillir. Et aussi, pourquoi faire la mélange de différents vignobles? Si on veut faire un grand vin pour vieillir, quand on fait une mélange de différentes origines, le vin final, c'est plus complet. Et c'est pour ça que quand on met en bouteille un vintage Fonseca classique, normalement, on parle de seulement 3 ans en chaque 10 qu'avait cette extraordinaire qualité. Ce n'est pas les œnologues, c'est la nature, qui le donne.
Et ce n'est pas une règle.
Et ici, nous faisons la combination de grains d'ans, un grain d'année, avec une grande assemblage pour faire le meilleur vin possible. Et on trouve le caractère de la maison. Peut-être dans les autres 7 ans, dans une décade, nous avons aussi très bonne année. Et c'est pour ça que nous avons le second niveau de vintage, qui c'est le vintage de domaine. Taylor's, le Quinted Vargelles, c'est une vintage de domaine et où on fait seulement l'assemblage des vignobles de cet domaine. Et cette vintage, la qualité, c'est le même. Il n'avait pas la même capacité de vieillir. Il fait la évolution plus rapidement.
Oui, le raisin est différent. Il est différent.
Par exemple, à Vargelles, nous mis en bouteille jusqu'à 1995 une vieille vigne de Vargelles.
Depuis.
C'est une porte au vintage extraordinaire. Mais c'est extraordinaire pour sa personnalité. C'est peut-être le vieil vin Vargelles sec mon Bourgogne. C'est un vin extraordinaire, mais il ne va pas avoir la même capacité de vieillir 60-80 années
qu'une année classique.
Et ça, c'est la différence.
Il y a quelque chose qui peut expliquer ça. Quand on regarde, quand on visite la Fortiori, le vignoble, quand on voit la variation d'altitude, de pente, de degré de terrasse, de profondeur, plus la multiplicité des cépages, il me paraît l'exposition, parce
tout
que
à
c'est
fait.
Sud, est, nord, ouest, avec toutes les variations, avec des degrés de pente très différentes, avec des proximités avec l'eau très différentes, avec des différences de date de vendange entre le bas et l'eau très
tout à fait.
On peut imaginer que sans assemblage, on aura un vin monolithique beaucoup plus
simple. Exactement. Exactement. C'est le principe. Ça n'a pas été difficile de prendre une décision de faire de vin d'assemblage. Avec cette complexité de description que vous avez fait, c'est vrai que dans la vallée du Douro, pour bien situer, on peut avoir des niveaux de hauteur d'eau, parce qu'il y a 5 barrages, par exemple, de Vargelles à Porto, donc qui sont d'une 25 mètres d'altitude. Donc on est sur 100 mètres au-dessus du niveau de mer, 100-125 mètres, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Donc, entre 600 mètres et 100 mètres, comme dit Dave, il y a une variation de maturité d'exposition qui est... Donc, sans doute, ça ne pourrait être qu'un vin d'assemblage.
Pour moi, ce qui est important de comprendre le vintage, c'est que le vintage, sans doute, c'est pour le consommateur qui aime le vin. C'est important d'avoir un minimum de connaissances de cette catégorie. Ce n'est pas en vain. Si on ne savait rien, on avait le risque de n'avoir pas le plaisir à cette vin. Mais pour les personnes qui aiment le vin, et heureusement, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui aiment le vin, et beaucoup plus, avec le vintage, vous pouvez découvrir les différentes années, la différente maison et accompagner l'évolution dans le temps. Et c'est pour ça que je dis que le vintage, c'est pour the wine enthusiast,
le connaisseur.
Le connaisseur du vin. Et c'est là que les autres Porto, les Tawny, c'est plus facile. Une personne qui ne connaît beaucoup le vin aimaient beaucoup le tendu parce qu'ils sont faciles. Nous avons fait le vieillissement et sont aussi magnifiques. Mais ça, c'est important. Le vintage, oui, nous sommes une niche d'entre autre niche. Une niche.
Et il y a beaucoup d'opportunités de mettre en avant le vintage parce qu'on sait, donc c'est un vin qui est assez fragile au contact avec l'air. Donc on ouvre la bouteille, il y a une recommandation de consommation de cette bouteille rapidement. Normalement, on l'ouvre, on la boit. Mais par exemple, en restauration, et on a un sommelier qui est partenaire ici du salon, Manu Perrandé, et il sait très bien que si quelqu'un lui demande une bouteille de vintage dans un établissement, la tendance sera de faire cette grande tradition qui est l'ouverture à la pince, c'est-à-dire des bouchons qui restent très longtemps dans la bouteille et qui se fragilisent parce qu'ils sont en contact avec l'alcool et le sucre, donc ils auront tendance à se fragiliser. Si on utilise un turbouchon, le bouchon va se casser, se dégrader. Donc faire l'ouverture à pince, qui est la méthode du choc thermique, quand on chauffe une pince à Porto, on transfère la chaleur dans le verre et on casse avec un torchon, un litho très froid, on fait un choc thermique. Tout ce travail, cette tâche de sommelier, attire l'attention de consommer une bouteille de vintage. Et c'est ces opportunités-là qui donnent aussi à ces grands vins à être dégustés et être appréciés dans différentes façons.
Et alors, il reste le problème que vous avez expliqué, qui est le late bottle vintage.
C'est pas un problème, c'est justement une solution.
Toujours, comme vous avez déjà deux catégories de vintage, le grand vintage, qui est le classique, le vintage avec Quinta, qui est...
et après, tu me laisses, David.
Pour les Français qui nous sommes très rationnels, c'est très compliqué.
Alors... Effectivement, et Taylor en est très responsable de cette catégorie-là, late bottle vintage, traduction directe, mise en bouteille plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années, pour faire la petite histoire, dans les années 60, Alistair Robertson, un neveu de M. Yetman, de la maison de la famille Taylor, était à Londres dans un restaurant, et le restaurateur il disait, écoutez, vintage, superbe vin, délicieux, mais il y a une problématique, c'est que quand on ouvre la bouteille de vintage, il faut la terminer. Je ne peux pas faire plusieurs services avec la bouteille de vintage. Alors, Alistair a reçu ce message et le restaurant a dit, pourquoi pas essayer de trouver un vin avec des caractéristiques de vintage, mais qu'on puisse servir au verre. Alors, Alistair Robertson est rentré à Porto, a pensé le problème, il a dit, alors, qu'est-ce qu'il veut le client ? Finalement, il veut, au lieu de mettre un vin en bouteille après 2 ans, je retarde la mise en bouteille entre 4 et 6 ans. Et nous, chez Taylor, on met 5 ans. Donc, le vin passe plus de temps en contact avec l'air et il a une stabilisation naturelle. Mais il garde le caractère du millésime. Et c'est comme ça que la définition de late bottle vintage, qui après est devenue une catégorie et qui a été une solution parce que on a un vin qu'on peut servir au verre quand le vintage, bien sûr, la complexité est bien plus importante. Il faut servir la bouteille. La France est le plus grand. Et d'ailleurs, avec l'air, on a vu des chiffres jeudi dernier à La Réunion. La France a 27% de la part de marché de toute l'activité de Porto. La France est numéro 1 et Portugal est numéro 2. Portugal a 17% de part de marché, la France 27%. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les portos entrée de gamme. Mais attention, c'est en toute légitimité, c'est en tout bonheur, parce que c'est un porto qui est aussi honorable, mais en style différent qu'un vintage. Mais pour une consommation tout à fait... C'est culturel, c'est culturel. Oui. Non, et c'est culturel.
Oui. Ces portos permettent...
Et c'est culturel, c'est une...
Je vais finir sa discussion, pourquoi ? Parce que dans le monde du vin, il avait vin ordinaire et grand vin.
Oui.
Dans le Porto, c'est le même.
Il
a vin ordinaire
et grand vin. Et c'est une question culturelle.
Et Mais c'est, dans tout le monde du vin, on avait ça. Et on doit sortir les deux, séparer les deux. Ici, on parle des grands vins. Les vins ordinaires, c'est ça. On doit finir, et je dois finir avec une question positive. Pour moi, c'est très intéressant déguster dans ce moment. Il a changé beaucoup de quand on a dégusté la première fois. C'est pour ouvrir énormément. Aussi, je dis que cette année 2003, j'ai dit qu'il est très jeune. Pour moi, cette année, c'est pareil quand une autre grande vintage, qui c'est le 66. Le 66, c'est une grande, grande année. C'est une année qui, le 63, c'est le grand vintage du siècle dernier. Et tout le monde oublie le 66. Mais dans ce moment, le 66, on passait le 63. Le 2000, c'est l'année du millésime, sont magnifiques. Et le 2003, c'est le canicule. Mais dans ce moment, cette 2003, ah il avait une capacité de vieillir.
Il est très primaire encore. Hein, il est très primaire.
Et avec ça, il y a quelques autres questions avant de fermer la session. Parce que je savais oui. qu'il avait
question, monsieur. Le rubis, c'est un style de Porto. C'est un vin qui vieillit dans des grands récipients en bois pour qu'il ait une évolution non oxydative, une évolution plus sur la réduction et qui conserve la couleur rouge et le fruit rouge. C'est des vins qui ont 3, 4, maximum 5 ans de vieillissement en bois, mais dans des grands contenants de 40, 50, 60 millilitres, ce qu'on appelle des foudres. C'est ça qu'on distingue entre rubis et Tony. Tony, c'est des barriques de 600 litres. Donc, la proportion du volume est plus en contact avec le bois et l'air. Il y a une évolution oxydative. Et le rubis, grand contenant, donc le contact avec le bois et l'air est faible et maintient sa couleur originale et ses goûts originaux.
C'est une description par la couleur et par la mode générale.
Tout à fait.
Moins d'oxydation pour tous les rouges jusqu'au niveau supérieur des vintages et beaucoup de contact avec l'oxygène, parfois un mélange de cépage blanc et rouge dans les tonnes et autres gammes et un milieu oxydatif pour tous les...
Voilà.
Jusqu'au colaïta et un tonnet millésimé.
Oui. Est-ce que tout le monde a eu la notion de différents styles des maisons, le style Croft, Taylor, Fonseca, la force du millésime, très jeune encore, mais déjà 20 ans passés?
Pour moi, comme œnologue, c'est un plaisir faire ces trois maisons où ma personnalité n'est pas là. La personnalité, c'est chaque vignoble. Et ça qui c'est... J'ai étudié en Australie. J'ai étudié œnologie en Australie. Et aujourd'hui, je dis que... quand on boit un vin, on comprend si le vin est fait dans le vignoble ou dans la chaie. Et ça, c'est très intéressant. Et pour moi, ces trois grands vins sont faits dans la vignoble pour les vignes et pas pour l'œnologue.
Très bien.
Et c'est un plaisir, montre ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, David. Excellent. Bravo.